session théologie, la parole de Dieu, par le père Philippe à Rimont, le 31 octobre 1992, premier cours.
Ce que je connais, ce que je ne connais pas. C'est très vaste comme sujet. Satisfait. Tu vois, celui qui l'est fait. Et le fidéisme fait qu'on ne peut plus distinguer philosophie et théologie. Or, l'intelligence a ses exigences. Il y a un appétit intellectuel en nous de vérité qui est plus puissant que tout. C'est évident. C'est par là qu'on découvre notre autonomie. Dans la mesure où on satisfait cet appétit intellectuel de vérité. Alors, si on ne voit pas la distinction entre philosophie et théologie, on risque toujours, en théologie, de retomber en philosophie. C'est le danger. Et par le fait même d'oublier ce qu'est la théologie, d'oublier le mystère de la foi. Et c'est pour ça que c'est très important de regarder le problème de la parole de Dieu. Parce que le mystère de la parole de Dieu, parallèlement au problème de la parole humaine, parce que la parole humaine, c'est un problème. Il suffit de ne plus pouvoir parler pour comprendre que c'est un problème. Et comprendre ce que, de fait, l'Écriture nous rappelle constamment. Va s'expliquer par l'inspiration humaine. Je crois bien que c'est dans Saint-Pierre où il dit ces choses-là avec beaucoup de netteté et beaucoup de force. Et c'est quand même important de se rappeler ça. De rappeler que le mystère de la parole de Dieu demeure pour nous un mystère qui par le fait même, nous échappe. Et met en nous quelque chose qui fait qu'on n'est jamais entièrement satisfait. Avant tout, sachez, aucune prophétie de l'Écriture ne relève de l'inspiration privée, car ce n'est pas d'une volonté d'homme qu'est jamais parvenue une prophétie, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a un niveau différent d'intelligibilité, de compréhension entre la parole humaine et la parole divine. Et il y a un mixte, la théologie n'est pas toujours inspirée de l'Esprit Saint. Le théologien ne se présente pas comme un prophète. S'il est un bon théologien, il peut être prophète, mais s'il ne se présente pas comme prophète, parce qu'il sait qu'il se sert de la parole humaine, qu'il se sert d'une philosophie humaine pour expliciter la parole de Dieu. Tandis que le prophète, mû par Dieu, sait qu'il est de l'Esprit Saint, les néoplatoniciens, l'homme est à l'horizon du monde spirituel et du monde physique. Il est à l'horizon. Donc, à la fois, il est lié à tout notre monde physique, à tout le monde des animaux. Il est le roi des animaux. C'est pas le lion, c'est l'homme. Il les tyrannise bien. Si les animaux pouvaient parler, je vous affirme, espèce de tyran qui dirait, on prend des animaux sauvages qui sont bien dits et on les met dans des cirques. Vous voyez, c'est la tyrannie. Il est le roi, tyran, dans le sens grec. Et au point de vue de l'intelligence, il est le dernier des intelligences, le plus faible, le plus complexe. Double complexité. Complexité psychologique, complexité biologique. Et cette complexité biologique et psychologique a une unité profonde dans son être. Il n'y a qu'un être, une existence. Et il cherche à s'unifier dans la découverte de sa finalité propre. Eh bien, le langage est un reflet et le fruit de cette complexité. C'est l'œuvre d'art par excellence, mais un art qui est plus que tous les autres, lié à la nature. Vous savez, les anciens distinguaient l'art proprement dit et les arts qui aident la nature du vivant. Eh bien, je crois que le langage est un art qui prolonge le vivant pour lui permettre de communiquer. Cette vieille analogie que prend Aristote et qui est très belle et qui est très intéressante et qui, dans le monde d'aujourd'hui, prend une signification étonnante. Entre la monnaie et le langage. La monnaie permet de dépasser la première économie qui fait qu'on échange un bœuf contre une quantité de petites poules, petites biches. C'est comme ça que se faisaient les marchés. Avant la monnaie, on a inventé la monnaie pour que le commerce existe. Pas besoin d'amener le bétail. On sait qu'il vaut tant. On sait que l'autre vaut tant. Et on fait l'équilibre. Et on voit qu'aujourd'hui, la monnaie a pris une ampleur extraordinaire. Puisque pratiquement l'économie repose entièrement dessus. On ne sait plus très bien quel est le fondement de la monnaie. Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est le pétrole? Est-ce que c'est le travail humain? Est-ce que c'est... On ne sait plus du tout. Et on fait des spéculations sur la monnaie, sur l'écu. Spéculation étonnante. Un bon banquier d'une bonne banque de Genève avait donné le conseil à quelqu'un que je connais. L'année dernière, changez vite tout votre argent suisse en écu européen. Il lui a dit au début de l'année, si vous aviez fait ça, vous auriez doublé votre fortune. Nécessairement sur le dos de quelqu'un, je présume. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Vous auriez doublé votre fortune. Et alors, récemment, il a dit, ah, vous avez peut-être eu raison de ne pas changer. Eh bien, le langage permet la communication au-delà du geste. Et il est l'intermédiaire spéculation sur le Menet, il y a des spéculations sur le langage. À tel point que le langage est devenu la réalité. J'ai des quantités de personnes. L'œuvre d'art, la réalité. Et on spécule sur le langage, on fait la philosophie du langage. Comme on fait la philosophie des communications. C'est quand même très significatif, ça. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça, que le langage comme tel ne s'explique pas par lui-même, comme la monnaie. Le jour où la monnaie est regardée pour elle-même, on est dans une spéculation à l'infini. À l'infini. Le vieil Aristote l'avait annoncé. Le jour où vous prendrez la monnaie pour elle-même, vous serez devant une recherche infinie. Il n'y aura plus aucun critère de vérité. C'est la même chose pour la parole. Analogiquement. Alors, la parole humaine a une complexité énorme. La foi, je sais ce que c'est. Quand on perd la foi, on réfléchit philosophiquement sur la foi. La foi qui est liée à l'organisme, qui est liée à l'affectivité et qui permet une parole vivante, la voix. L'invention du signe, la parole est un signe, un symbole, symbolon, conventionnel, donc artistique, pas naturel. C'est la différence entre l'animal, qui a une parole naturelle, pas conventionnelle, et il crie, et le cri a une signification. C'est la voix qui prend tout. Un signe inventé par les hommes. Les hommes ont inventé la parole, comme ils ont inventé l'art. Conventionnel relève d'une communauté. Et la signification dépend de... L'imagination joue pour ce symbole. La parole représente quelque chose. Et elle signifie quelque chose. Puisque le propre du symbole, c'est d'unir représentation et signification. Et la parole implique les deux, représentation et signification. Donc c'est lié à la personne, c'est lié à son intelligence. Autre chose est la parole, qui est une confidence d'un ami à un ami. La parole logique, la parole de l'avocat, la parole du commerçant, la parole qu'on utilise en famille. C'est quand même très différent tout ça. Et c'est toujours la parole humaine. Donc oui, quand je parle de la parole humaine, quelle terrible abstraction je fais. Parce que toutes les expériences de la parole que j'ai, c'est tout cela. La première fois qu'on vous a fait une confidence, je te dis ça à toi, mais surtout, non, ne dis rien. Or, la parole demande d'être communiquée. Et donc, quand quelqu'un vous dit un secret, il vaut mieux un barrage. Et la première chose qu'on fait, c'est de le communiquer à quelqu'un qui est un autre ami. Je te dis ça parce que tu es mon ami, mais surtout ne le dis pas parce qu'on m'a dit de ne pas le dire. C'est très curieux. Ces choses-là, on a très envie. créée pour aimer plus. La parole au niveau diplomatique, la parole d'un savant, d'un mathématicien. Alors vous voyez, Platon, je résume pour montrer que chacun a saisi quelque chose. Platon, lui, puisque il sépare l'âme du corps, la parole est en vue de communiquer les idées. Parole désincarnée. Très. Aristote rappelle la complexité de la parole humaine. C'est l'intérêt d'Aristote. Puisque pour lui, il y a le corps et l'âme. Saussure. Ah, c'est déjà une attitude réflexive sur la parole. C'est toute une critique sur la parole. Donc on considère la parole pour elle-même. Ça, c'est l'âge moderne. Platon et Aristote considèrent la parole comme un signe. Très différent hein, de Platon et d'Aristote. Un signe séparé, un signe lié à la voix. Aristote insiste beaucoup sur la voix, sur le corps. Quand je parle, mon corps est engagé. Je suis engagé dans la parole. À la différence de l'écriture, hein, on verra ça demain. L'écriture appauvrit la parole terriblement. Une lettre à quelqu'un que vous aimez et il y a un dialogue avec quelqu'un que vous aimez, c'est pas tout à fait la même chose. J'écris parce que je peux pas te voir, alors je t'écris. Vous voyez, c'est un erzas. Et progressivement, l'écriture prendra le pas sur la parole. Ça fait partie de notre ère moderne. Vous voyez, alors on a comme ça des dérivés qui fait qu'on comprend un tout petit peu ce qui se passe et comme c'est difficile pour nous de comprendre ce que c'est que la force de la parole, parce que l'écriture passe devant. Sola scriptura. La seule écriture, c'est la seule chose qu'il y a. Les juristes sont un peu comme ça. Hein. Écrivez, il faut un écrit. S'il n'y a pas d'écrit, la parole, non. Les amoureux. Ah oui, les écrits, oui, mais c'est surtout la parole. Tu m'as dit ça dans telle circonstance et je garde ça dans mon cœur. La parole vivante a quelque chose de tout à fait différent. Puis, il y a l'attitude des modernes. À partir de Kant, la critique est devenue fondement. Ça, c'est le passage de Kant. La critique est première. Avec la critique, on stérilise tout. La critique n'a pas de fécondité. Elle est stérile, elle est la vieille fille ou le vieux garçon de l'intelligence. Quand on est stérile, on critique. Puisqu'on n'a pas besoin de fécondité. Et c'est très curieux qu'on voit cette stérilité qui s'empare de plus en plus de l'intelligence et de la parole. Alors, l'analyse scripturale qui au fond regarde la fonction. On a une attitude réflexive, à la fois logique et critique. Et il y a un mélange des deux. Heidegger considère la parole comme une œuvre d'art. En soi, l'analyse du sphinx, c'est extraordinaire ça, qui prend comme analogie pour comprendre ce que c'est que la parole. Et c'est très important, parce que Heidegger joue un rôle important s'éloigne plus de la présence de la parole. La parole symbole a une présence. Une parole poétique donne une présence. Une parole amoureuse donne une présence. Et donc, on regardera plus le point de vue affectif, psychologique. La parole a quelque chose qui émeut l'autre et celui qui l'a dit. Donc les effets de la parole, plus la parole elle-même, les effets, le conditionnement de la parole pour qu'il ait ses effets. Vous voyez, c'est intéressant de voir que de fait, tous ces éléments sont justes. Le tout, c'est les organiser. Et pour les organiser, on peut avoir qu'une philosophie de l'homme. C'est à partir d'une philosophie de l'homme. On ne peut pas organiser ces éléments sans une philosophie de la personne humaine. La parole ne peut se comprendre qu'à partir d'une philosophie de la personne humaine. La personne humaine qui est une personne sociable. L'homme est un animal politique. Parole du vieil Aristote. Et la parole est l'élément essentiel de la communication et donc de la communauté. Il n'y a pas de communauté s'il n'y a pas de parole. Alors, on fera des ersatz de la parole dans des communautés où on veut garder le silence, comme chez les cisterciens ou les trappistes. Alors, on fait des gestes, comme pour les sourds-muets. On avance toute la parole. Et on comprend très bien, mais c'est encore une parole, c'est une signification, c'est le geste est lié à la parole, il est lié à la présence. Donc, s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de communauté. Ça, c'est vrai. Mais, c'est pas la communauté qui fait la parole. C'est la personne humaine qui est auteur de la parole. Et la personne humaine est plus ou moins engagée dans la communauté. Il y a des personnes, j'en connais, qui pour penser ont besoin de parler. Ça a même une expression particulière en psychologie, n'est-ce pas ? On dit que pour penser, il faut parler. C'est vrai que de temps en temps, quand un gosse a peur, il se met à crier. Comme un petit chien qui a peur, il se met à aboyer. Il n'est pas méchant quand il aboie, mais il a peur. Alors quand il a peur, si vous l'agacez trop, il va se mettre à mordre. Cet animal n'est pas méchant, mais quand on l'attaque, il se défend. Hein? On sait très bien. Et au fond, la parole peut devenir une défense. Il y a des personnes qui, quand on est en communauté, il y en a qui parlent beaucoup. Et puis il y en a qui se trouvent obligées de parler parce que si elles se taisent, elles sont comme une limace qui disparaît quand on met du sel dessus. C'est difficile de supporter le silence quand c'est dans une communauté où tout le monde parle. On a envie de dire quelque chose pour exister. Vous voyez, ce phénomène moderne de la parole qui donne l'existence à la personne, qui donne la personnalité, parce que la communauté donne à la personnalité une auréole. Mais je crois qu'il faut comprendre que le lien de la parole à la personne humaine, à son intelligence, est quelque chose de capital. Je crois, relève de ce lien. Normalement, quand on parle, on veut communiquer à l'autre, à un autre, à un ami, à un étranger. On veut communiquer ce qu'on porte dans son intelligence. On communique sa pensée. On communique ses connaissances. Donc la relation principale qui commence. Ubuntu est celle-là, la signification de la parole, qui relève de celui qui parle. Mais, étant donné la complexité de la parole, il y a tout le conditionnement affectif, le conditionnement plus ou moins riche de la personne qui parle, le conditionnement social. Autrement dit, puisque la parole est un instrument, ce n'est pas une réalité qui subsiste en elle-même. C'est un instrument dont je me sers, un instrument que l'homme a inventé, dont l'homme est tout œuvre. Cet instrument subit terriblement le conditionnement dans lequel je me trouve. Conditionnement affectif de la foi, conditionnement de la communauté, conditionnement savoir si je veux communiquer des secrets ou une parole uniquement pour instruire. Mais la signification me semble l'élément premier. Toute parole humaine possède une signification. Mais cette signification est enveloppée d'un conditionnement tel que quelquefois le conditionnement passe avant. Alors à ce moment-là, je ne cherche plus la signification propre de la parole. Je cherche à émouvoir. Je cherche à changer la personne à qui je parle. Et c'est cet élément-là qui domine. L'efficacité affective. C'est un simple rappel. Parce que vous voyez, la parole humaine est très riche. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il y a une analogie formidable. Mais c'est Dieu lui-même qui parle de parole. Je n'ai pas à discuter. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'acte créateur de Dieu est présenté tout de suite dans l'Écriture comme se réalisant à travers une parole. Ça, c'est formidable. Le terme bara, créé. Tous les bons exégètes reconnaissent que ce terme, ce verbe, est réservé à Dieu. Mais en même temps, on emploie un autre terme qui explique tout simplement faire, réaliser. Mais il y a deux termes. Ça me semble très important de voir que tout de suite, la création s'accompagne d'une parole, se transmet par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière vue. Premier moment de la révélation. Dernier moment de la révélation. Puisque la révélation présente un tout. Hein. Saint Augustin le dit. Saint Augustin n'hésite pas de dire que toute la révélation de la parole de Dieu, c'est une grande musique. C'est Saint Augustin qui dit ça. C'est une musique merveilleuse. Et vous retrouvez les leitmotifs de cette musique. Je prends le point de départ. Dieu dit que la lumière soit et la lumière vue. Et le terme de la révélation officielle de l'Église. L'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, le cri de Jésus, j'ai soif, et le coup de lance. Et il est dit, tous les deux, pour que l'écriture s'accomplisse, l'achèvement de l'écriture, l'achèvement de la parole de Dieu, le cri, j'ai soif, qui est une parole, mais qui est une parole qui est un cri. Donc, où l'aspect affectif l'emporte sur la signification. Et le geste, qui est une parole incarnée, et silencieuse, la blessure du cœur, l'achèvement de toute la révélation, la lumière et l'amour. Ceci doit me faire réfléchir. Dieu, quand il me parle, c'est un père. Il me parle pour m'instruire, pour me sauver. La parole de Dieu est salvatrice. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, on y reviendra. Parce que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Parmi les interrogations, quelle est la ratio de la parole de Dieu? C'est une question posée. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? La parole de Dieu est-elle parole de Dieu parce qu'elle vient de Dieu? Est-elle parole de Dieu parce qu'elle a une signification divine? Et quelle est sa signification? Et quand Dieu me parle, il me parle en tant que Dieu. Père ou Créateur. Les néoplatoniciens distinguaient toujours le Dieu Créateur et le Dieu Père en philosophe. Et c'est vrai, je peux très bien distinguer les deux sans les séparer un du tout. Le Créateur est Père, mais parce qu'il est Père, il parle. Il parle à sa créature spirituelle. Il ne va pas parler aux étoiles. Il ne va pas parler aux animaux. Il va parler aux hommes. Ils sont ses enfants. Donc toute la création, c'est la parole d'un Père. Dieu ne parle pas comme professeur. Important. Dieu ne parle pas exprès un langage énigmatique pour ne pas être compris. Et pourtant, il parle un langage énigmatique, un langage symbolique, pour être compris. L'intention de Dieu, quelle est l'intention de Dieu quand il parle? Tout le mystère de la révélation. Alors là, prenons et rappelons-nous ce qui est dit au début de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est très important pour le mystère de la parole de Dieu. Vous savez bien le début de l'Épître aux Hébreux qui insiste tellement sur le fait que la parole de Dieu n'est pas toujours la même. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé jadis à nos pères, par les prophètes, Dieu, en cette fin des jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a fait les mondes. Resplendissement de sa gloire et empreint de sa substance, ce Fils qui porte chose par sa parole puissante. Donc la création. Après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom dont il a hérité l'emporte sur le leur. Et je vous rappelle alors maintenant ce que j'évoquais il y a un instant et qui me semble important à bien souligner. Quand, dans son évangile, saint Jean souligne, après cela, donc, c'est Jésus qui vient de donner sa mère à Jean. Voilà ta mère. Après cela, sachant que désormais, tout était achevé. Donc, tout est achevé par le don qu'il fait de sa mère. Pour que fût accomplie l'Écriture. Et l'Écriture ici est porteuse de la parole de Dieu. Donc pour que fût accomplie la parole de Dieu, Jésus dit, j'ai soif. Donc c'est bien l'âge. Et l'écriture se termine par l'évangile de Jean. Ou l'Apocalypse, ça dépend ce que vous voulez dire. Mais la plupart du temps, après l'Apocalypse, on met l'évangile de Jean, ce que je crois personnellement. Donc l'écriture s'achève par l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean porte cette dernière parole de Jésus. Accomplit l'écriture. Et puis lorsqu'il s'agit de la blessure du cœur, et celui qui a vu a témoigné et véridique son témoignage, celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyez, car cela est arrivé pour que l'écriture s'accomplit. Aucun de ses os ne sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Donc les deux fois, on souligne l'achèvement de l'écriture par le Christ. Le Christ parle en ami, en sauveur, en sauveur, en ami, en grand prêtre, en époux. Tout ça est dit dans l'écriture. La parole de Jésus a une signification très particulière parce que elle reprend tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, avec un accent personnel tout à fait nouveau. J'allais dire que la parole révélée par le Fils est tout entière relative à la personne du Christ. Et elle nous atteint en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ami, en tant que disciple, en tant qu'épouse. C'est, je crois, très important de se rappeler ça. Parce que ça fait que toutes les modalités particulières de la parole humaine se retrouvent dans le mystère de la parole divine. Et surtout dans le mystère de la parole divine qui est par Jésus. Parce que par Jésus, la médiation est tout à fait particulière. Voyez la différence de l'évangile et de l'Apocalypse à ce point-là. L'Apocalypse, il est dit au début de l'Apocalypse, pour bien nous montrer la force de cette révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. Et il l'a signifié par l'envoi de son ange à son disciple Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc nous voyons bien, révélation de Jésus-Christ, Jésus-Christ en est l'auteur. Et ceci se fait par la médiation de l'ange, d'un envoyé.
De théologie, la parole de Dieu par le père Philippe Arimon, le 31 octobre 1992, deuxième cours.
Si nous prenons le prologue de l'évangile de Saint Jean, qui est si important, puisque qui parle, l'auteur principal de la parole, selon le credo, c'est l'Esprit Saint. Et il parle aux hommes croyants. et la lumière sur le mystère des hommes. Toute l'écriture parle de Dieu, toute la révélation parle de Dieu et parle des hommes. Et on peut dire que chaque fois que Dieu se révèle à nous, il nous révèle ce que nous sommes. Et chaque fois qu'il nous révèle ce que nous sommes, il se révèle. Et c'est là le contenu si merveilleux de la révélation. Il est divin et humain. C'est Dieu qui se révèle en nous parlant. Et c'est pour ça que c'est peut-être le caractère tout à fait particulier de la parole de Dieu. C'est que cette parole est liée à son auteur d'une manière tout à fait particulière. Le caractère de la parole de Dieu, c'est que Dieu lui-même se révèle dans sa parole. Et c'est le contenu de la parole de Dieu, la signification profonde de la parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle. Et Dieu se révèle aux hommes qu'il aime. Il se révèle aux croyants. Comment comment de fait il se révèle à nous en se servant de la parole humaine, d'instrument. Il aurait pu très bien ne pas se servir d'instrument et nous révéler directement et immédiatement d'une manière tout intérieure. Dirait d'une manière mystique et pour chacun d'entre nous d'une façon unique ou avec des paroles intérieures comme un secret ou tout simplement par une lumière. Or, il a voulu se révéler à nous en se servant d'instruments. Les prophètes et toute la diversité même des livres de l'Ancien Testament nous montrent la manière diverse dont Dieu se révèle. Autrement par le Cantique des Cantiques, autrement par la Genèse, autrement par les prophètes, Isaïe, Jérémie, autrement par des livres qui sont beaucoup plus historiques. Il y a toutes des dimensions diverses dans la parole de Dieu. Et la manière dont il se révèle est diverse. Et le sommet, je crois qu'on peut dire qu'il nous est montré dans le prologue même de Jean. Et dans ce que je vous disais tout à l'heure, l'ultime moment de la révélation, le cri de soif. Si vous prenez donc le prologue, énarché, n'est-ce pas, dans le principe, était le logos, et le logos était vers Dieu, prostanteon, et le logos était Dieu, il était dans la source, dans le principe. Ce terme du logos. traduit diversement. Saint Jérôme. Verbum. En grec. C'est resté logos, puisque de fait, ça a été écrit en grec. Est-ce que Saint Jean y a écrit avant en araméen ? C'est une hypothèse. Ce qui nous est donné dans la révélation, c'est le grec logos. Et le terme logos lui-même est très difficile à traduire. Presque intraduisible. En Sorbonne, actuellement, on traduit logos discours. Vous comprenez que c'est bien, c'est un des sens de logos chez les rhéteurs. Mais logos signifie quelque chose de beaucoup plus précis. N'oubliez pas que le terme logos en Grèce et en philosophie grecque, le premier, au point de vue témoignage historique, parce qu'il a peut-être été employé avant, a été employé à Éphèse. C'est assez curieux de se rappeler cela et de voir que c'est bien à Éphèse que le premier philosophe grec a employé le terme logos, Héraclite, Éphèse. Voyez cet article, La théologie joannique du logos, par Jean Gilblet, dans La parole de Dieu en Jésus-Christ. Casterman, 1964. On a beaucoup écrit là-dessus. C'est intéressant de voir tout simplement ce lien historique, pas personnel, pas tout à fait les mêmes dates, mais historique. Le logos grec de la philosophie grecque apparaît à Éphèse. Et le logos chrétien, inspiré par Jean, Éphèse. Est-ce que la Providence a voulu cela? Héraclite, c'est le philosophe du logos et le philosophe du feu. C'est étonnant de voir cela et de voir la transposition merveilleuse divine dans l'évangile de Jean. Le logos et le paraclet. Jean apporte à la révélation sur la très sainte Trinité deux expressions nouvelles qui n'existent pas avant. Le logos et le paraclet, et qui sont tous les deux quasi intraduisibles. C'est pour ça que de fait les traductions sont si multiples. Quand les traductions sont multiples, ça prouve qu'on n'arrive pas à traduire. Le logos, il y a des quantités d'expressions avant. Le paraclet, il n'y en a pas du tout. Le paraclet n'existe pas dans la Bible avant. Dans la révélation avant. C'est propre à l'évangile de Jean. Et le logos, au contraire, d'une certaine manière, dans les Septante, vous le retrouvez. Et le logos dans Saint Jean exprime à la fois la seconde personne de la très sainte Trinité et en même temps la parole divine. C'est ça qui est très étonnant. Alors, d'abord, traduction du logos. je serais presque à dire, il faudrait pas que ce soit le seul expression. Pourquoi? Parce que, d'après le prologue, c'est net. Le verbe est vers Dieu. Il n'est pas vers les hommes. Pros, don, théon. Donc il est tout entier tourné vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le verbe, il est à l'intérieur du mystère de Dieu. Il est dans le sein du Père. In sino patris. Ça veut dire qu'il est caché. Mais ça veut dire aussi qu'il est caché. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas l'atteindre par eux-mêmes. Il est dans une immanence et dans une intériorité absolue. Il procède du principe. Il est dans le principe, dans le Père, puisque le Père, c'est le principe. Il est dans le Père, il procède du Père, il est tourné vers le Père. Et il est caché dans le sein du Père. C'est le grand secret. J'aimerais presque personnellement de traduire Logos comme le secret. C'est le secret de Dieu. C'est le secret du Père. Je peux dire ça, Logos peut exprimer secret. Saint Thomas dira verbum mentis. Verbum mentis, c'est-à-dire le verbe de l'esprit. Ou le verbe du cœur, verbum cordis. Le verbe du cœur se traduit en français secret. Ce que au plus intime de moi-même. Je porte ce qui provient de moi et que je porte comme le secret de celui que j'aime. C'est celui que j'aime que je porte en moi en pensant à lui. Et il est présent à moi dans ce verbe. Le verbe procède du Père et de la contemplation du Père. Et la contemplation du Père, elle est lumière et amour. Et donc c'est bien le secret. C'est le secret de Dieu. Et ce secret n'a pas été révélé avant le mystère de l'Annonciation. C'est à Marie qu'il a été révélé en premier lieu, explicitement. Dans l'Ancienne Alliance, il est révélé d'une façon cachée, d'une façon énigmatique, symbolique, mais qui ne permettait pas de discerner dans le mystère même de Dieu une distinction de personne. Voyez, les trois jeunes gens à Abraham, ils sont un et trois, mais c'est énigmatique. La sagesse dans les livres de sagesse est révélée comme sortant de la bouche de Dieu, mais la sagesse est avant tout principe d'ordre et par rapport à la création. Tandis qu'ici, on dit que le Logos, il est pros d'Anteon. Bon, on traduit auprès de Dieu. Je veux bien, mais c'est plus. Parce que vous pouvez être auprès de quelqu'un. J'ai voyagé auprès de quelqu'un, on était assis l'un à côté de l'autre. J'étais auprès de lui, on ne se regardait pas. Tandis que quand je dis vers, je le regarde. C'est le face-à-face. Le verbe est face. Au Père, c'est le face-à-face. Tout tourné vers. De sorte que, tout de suite, il nous est montré que le Verbe n'est pas vers les créatures. Ça, c'est la part tourner vers les créatures. Il est prostodéon, il est vertueux. Je crois ça capital pour essayer de traduire. Et c'est pour ça que quand on traduit parole, moi ça me gêne. On peut, c'est évident, c'est pas une hérésie, c'est bien évident. Mais parce que la parole, dans sa signification profonde, c'est une communication. Je parle pour communiquer à un autre. Et c'est essentiel à la parole. Or, Dieu n'a pas besoin de se communiquer à lui-même. Il est. Et la seconde personne de la très sainte Trinité ne communique pas ce qu'elle est au Père. Puisqu'il procède du Père. Il est tout entier du Père. Éternellement. Donc il peut être que prostodéon. Et pour bien distinguer ce point de vue du logos personnel qui est Dieu, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Tandis que le logos est Dieu, il est dit explicitement. Donc si on veut traduire, on doit exprimer tout ce qui est contenu dans le contexte. Autrement, on fait une fausse traduction. Alors, je crois que nous devons traduire « verbe »,« secret du Père ». Et personnellement, j'aime bien dire « secret ». Parce que de fait, si Dieu a mis si longtemps avant de nous révéler le mystère du Logos, c'est pour que nous comprenions qu'il y a là un grand secret personnel. C'est le fruit de la contemplation personnelle et intime de Dieu. C'est un secret que nous recevons comme un secret. Alors, ce qu'il faut encore souligner, si on veut comprendre un tout petit peu ce prologue qui est si important, je crois qu'on peut dire que le prologue de Saint Jean, c'est la charte de la contemplation. De la contemplation chrétienne. C'est ce qui nous livre la contemplation chrétienne. Nous entrons dans les secrets de Dieu, dans le secret de la très sainte Trinité. Il faut bien voir que la première révélation de la très sainte Trinité explicite s'est faite non pas par le Logos, mais s'est faite par l'expression « Fils du Très-Haut ». L'ange Gabriel parle à Marie qu'elle aura un fils. C'est difficile pour l'ange de dire autre chose. Tu seras le fils du Logos, pauvre Vierge Marie. Elle n'avait pas entendu parler ça, fils de la parole, pour elle. Vous voyez, ça, c'est la merveilleuse adaptation de Dieu dans la parole de Dieu. La parole s'adapte à la personne à qui on parle. Et nous avons là un exemple merveilleux, le plus beau qui soit, je crois, de toute l'Écriture. À Marie, l'ange dit « fils ». Parce que Marie comprend tout de suite ce langage. Ça, ça lui parle au cœur. Et c'est un secret. Concevoir, c'est un secret. Je rappelle, à titre de nota bene, la lettre au bas de la page, soit, quand saint Thomas parle du Verbe dans le Compendium de Dieu, il dit, le Verbe, c'est le concept. C'est l'intelligence qui conçoit le Verbe. C'est le fils de notre intelligence. Il n'est pas fils du tout, mais c'est le fruit de notre intelligence. On le conçoit, le Verbe. Il y a cette idée dans le Verbe. En latin, ce qui est conçu. Et Marie va concevoir. parle du Fils. Mais Saint Luc parle du Fils. Toute la première révélation de la vie cachée. Jean seul, au terme de la révélation, parle du Verbe. Il en parle trois fois, hein, vous savez bien. Il en parle trois fois. L'Apocalypse. Et si l'Apocalypse est avant l'Évangile de Jean, ce que je crois, pas uniquement parce que ce que disent ces exégètes, mais tout simplement parce que quand on fréquente bien l'Évangile de Jean et l'Apocalypse, on voit bien les liens très profonds entre l'Apocalypse et l'Évangile de Jean. Alors voyez, dans l'Apocalypse, le chapitre 14e de l'Apocalypse.
Révélant à nous comme verbe, il nous révèle le Père, Enarché, le
Jésus-Christ. Ça vient d'en haut. Directement, je crois pas que Saint Jean avait à côté de lui Héraclite. Je ne crois pas que Saint Jean avait à côté de lui toutes les prophéties eschatologiques. Non. C'est une prophétie qui est un don de Dieu d'une façon très très remarquable. Évidemment, Dieu se sert de l'imagination de Saint Jean, c'est sûr. Mais je ne crois pas que Saint Jean vivait dans une imagination symbolique, apocalyptique, chaque jour de sa vie. Quand il était à Patmos, je crois que c'est l'Esprit Saint qui s'est servi de cette imagination prodigieuse de Saint Jean pour exprimer quelque chose de merveilleux. Et au cœur de cette révélation, c'est l'agneau et le Verbe. Alors, on peut se poser la question, d'où vient à Jean cette révélation? Je vous donne ici une petite explication personnelle. Ça ne vaut pas plus que ça. Mais personnellement, je crois, il me semble impossible que Jean n'ait pas demandé à Marie, quand Jésus était ressuscité, ce qu'elle vivait à la croix. Nous l'aurions tous fait. Il me semble impossible que Jean commence son évangile par le fruit de sa contemplation. Alors, vous voyez tout de suite, Jean demande à Marie ce qu'elle a contemplé à la croix qui lui a permis de rester debout. Et je puis dire que Marie à la croix a pénétré dans le mystère de la rédemption, de la victoire du Christ, plus profondément que ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Ça, j'en suis sûr. La contemplation de l'Apocalypse est charismatique. La contemplation de Marie à la croix est purement de grâce sanctifiante et du don de sagesse. Et donc, elle va bien plus loin. Elle découvre à la croix le mystère du Verbe, le secret du Père, qui par l'humanité sainte du Christ nous révèle tout son amour à la croix. La sagesse de la croix qui nous révèle le grand secret du Père, le Verbe. Et le mystère de la croix manifeste le mystère du Verbe, de la contemplation du Père, fait entrer dans cet amour prodigieux du Père sur son Fils. Et la croix nous révèle cet amour. Le Fils offre sa vie pour glorifier le Père et nous sauver. Et si le Fils offre sa vie pour glorifier le Père, c'est le Père qui se glorifie en lui. Et c'est le Père qui l'enveloppe de son amour. Et c'est dans ce mystère de la croix que Marie découvre ce mystère du Verbe de Dieu. Et qu'elle communique à Jean de l'Annonciation à la croix. Le Fils qui est le Verbe. Et Jean reçoit ça comme un secret. Jean a communiqué sûrement beaucoup à Luc, les bons exégètes de Saint Jean n'hésitent pas de le dire. Il a communiqué tout ce qu'il pouvait chevaux le symbolisent du cheval blanc. Ayant reçu cette lumière directement du Christ, par la médiation de Marie, il peut communiquer alors cette contemplation de Marie à la croix. Et c'est son prologue. Prêchant à Châteauneuf, une retraite aux prêtres, j'avais essayé d'expliquer l'évangile de Saint Jean, du moins le prologue, et en essayant de comprendre ce grand mystère du Verbe. Et voyant Marthe, quelques jours après, la petite Marthe Robin, je lui dis, Marthe, est-ce que vous croyez que je puis dire ça? Et alors Marthe, avec sa spontanéité, mais père, c'est évident. Alors le théologien à ce moment-là, Plicaster, pour Marthe, c'était une évidence que le prologue de Jean était la révélation de Marie à la croix. Oui, on ne peut pas l'affirmer au point de vue théologique, c'est sûr, mais il y a des indices. Alors on peut conduire vers cela. C'est vrai, c'est pas objet de foi, mais je crois profondément que Jean a reçu tellement de Marie et qu'il a compris en profondeur tout ce qu'il nous donne dans son évangile grâce à Marie, et qu'il n'a pu le communiquer qu'après la terrible secousse de l'Apocalypse. Les hommes ne communiquent certains secrets qu'après avoir été terriblement secoués. Parce que les hommes gardent des secrets, surtout des secrets qu'ils ont reçus de leur mère spirituelle, de leur mère divine. Ils les gardent. Ils n'ont pas envie de les communiquer. C'est trop intime. C'est merveilleux le mystère du Verbe. Face au Père. Et cette révélation qui nous est faite nous donne la grâce de contempler le Verbe. Et donc d'entrer dans cette contemplation. C'est bien la contemplation chrétienne par excellence. Et alors, c'est d'autant plus fort que grâce à l'Apocalypse, on voit que c'est la révélation de la croix. C'est à la croix que s'achève la révélation. Et que c'est à la croix que la très sainte Trinité, le mystère du Père, nous est révélé dans toute sa force, à travers le mystère de la lumière victorieuse des ténèbres. Ce qui est extérieur à la croix, j'allais dire le regard des journalistes, ce qui existe depuis tout le temps, le regard des journalistes de la croix, échec complet. On voit très bien l'annonce, hein. Échec complet de celui qui se dit fils de Dieu. En réalité, c'est un trompeur, il nous a menti, c'est un blasphémateur, tout ça. Échec complet. Extérieurement, la croix, c'est l'échec le plus terrible qui soit. Si Marie avait assisté en regardant l'apparence du mystère de la croix, elle n'aurait pas pu rester debout. Elle se serait effondrée. Mais la croix, dans le regard de Dieu, dans un regard intérieur, c'est la grande victoire de l'amour. Jésus qui accepte d'être anathème pour ses frères est le Fils bien-aimé du Père, son secret d'amour. Il est le Verbe. Alors, on commence à entrer dans cette révélation en adhérant au mystère même de ce secret du Père qui ne pouvait être révélé pleinement que par la croix. C'est ça qui est si étonnant. C'est à travers un geste d'amour, l'offrande que Jésus fait de sa vie, que le secret du Père nous est révélé. vous montrer combien toujours la parole de Dieu est infinie quand elle atteint le mystère. Et c'est ce que saint Augustin dit quand il dit que la parole de Dieu a des significations infinies. C'est pas du tout infini en quantitativement. On l'a compris comme ça, ce qui est très fou. Infini, c'est en pénétration. Chaque fois que je lis de nouveau la parole de Dieu, je pénètre plus avant dans le mystère. Parce que la parole de Dieu est liée au mystère. Elle est liée au Logos. Alors, ça aussi c'est très important. Et chaque fois que nous entrons davantage dans la parole de Dieu, nous découvrons le mystère davantage. Et c'est peut-être à cause de ça, vous voyez, que saint Jean emploie la même expression pour désigner la seconde personne de la très sainte Trinité, le Logos et la parole de Dieu. Saint Thomas dit que dans toute parole divine, le Verbe est présent. Et donc, la parole divine, c'est comme, comprenez bien, l'enveloppe humaine du Verbe, l'élan. Comme le